De la belle grande visite en studio, la chronique Biblio, si je peux dire, en compagnie de Sarah Ossama, bibliothécaire à la direction des bibliothèques de Montréal. Bonjour Sarah.
Bonjour Hélène.
C'est toujours un plaisir de vous accueillir en studio pour parler livres et aujourd'hui vous allez parler d'un beau projet.
Oui, aujourd'hui je suis venue vous parler de la saison 4 du balado Histoire de quartier qui est sortie il y a peu de temps et que vous pouvez écouter sur YouTube et la plupart des plateformes d'écoute de balado. Vous le savez déjà, Hélène, c'est pas la première fois que je vous en parle. Ce balado, c'est un de mes projets chouchous dans le cadre de mon travail à la direction des bibliothèques de Montréal.
Et ça paraît quand on découvre les balados, là, vous faites ça avec bonheur et passion, c'est contagieux.
Oui, merci. C'est un balado, donc, Histoire de quartier, où on explore différents quartiers de Montréal mis en scène par des auteurs, des autrices dans une œuvre qu'ils et elles ont publiée. Donc, ça nous permet de découvrir des lieux emblématiques d'un quartier et un de ces endroits emblématiques est très dynamique et c'est évidemment la bibliothèque de quartier. Donc, on s'entretient avec l'auteur ou l'autrice dans la bibliothèque du quartier concerné et on en profite aussi pour parler à l'équipe de cette bibliothèque-là et à une personne de la communauté qui fréquente assidûment sa bibliothèque. Dans cette nouvelle saison, les quatre nouveaux quartiers qu'on a explorés sont Quartierville, La Salle, Pointe-aux-Trembles et Rosemont. Donc, on a vraiment parcouru le territoire d'ouest en est et presque du nord au sud. À la bibliothèque de Quartierville, on a rencontré Tara Charland, l'autrice du récit « L'été au parc Belmont » qui est publié aux éditions de La Mèche. Alors, c'est un récit qui est composé de textes, de photos, de dessins, de plans. C'est vraiment une forme assez hybride. On n'est pas particulièrement habitué à cette forme-là.
Mais non.
Et quand je l'ai rencontrée, j'ai demandé à Tara Charland ce qui l'a inspirée à écrire cette histoire. Je vous laisse l'écouter.
En fait, c'est en 2015, j'étais chez ma mère à Blainville, donc sur la rive nord. Puis en allant au sous-sol, on a découvert ensemble un sac à ordures, un gros sac à ordures dans lequel il y avait pêle-mêle plein de photos. Des photographies de l'enfance de mon père, de toute sa famille qui ont habité à Quartierville pendant des décennies. Puis dans le fond, on s'est rendu compte que c'était comme son album de famille, son album photo qu'il avait caché là. Puis là, bon, je sais pas, 15-20 ans plus tard, après sa mort, on découvrait ça ensemble, ma mère et moi. Puis j'ai comme eu le sentiment qu'il y avait quelque chose là qui avait matière à écriture. Puis comme quelques mois plus tard, j'apprenais aussi que la maison à Quartierville, la maison familiale des Charland, était comme située à deux pas du parc Belmont. Parce que, bon, vous l'avez dit au départ, c'est un parc qui a fermé ses portes en 1983, donc plusieurs années avant ma naissance. Donc moi, j'ai pas de lien fort avec le parc Belmont, mais ça m'a comme un peu fascinée, cet environnement-là. Puis avec le matériel, les archives photographiques de mon père qui avait caché ça là, au sous-sol.
Tara Charland, donc, l'autrice de « L'été au parc Belmont ».
Oui, elle évoque donc dans ce récit-là l'histoire de son père, comme vous l'avez entendu dans l'extrait. Elle va, via une recherche dans les archives familiales qu'elle a retrouvées donc au sous-sol de la maison familiale, elle va évoquer sa vie et elle superpose comme ça la vie de son père qui est somme toute assez triste et dans la retenue, dans une famille où on n'est pas habitué à parler de nos émotions, de nos sentiments. Donc, elle va évoquer cette vie-là triste un petit peu en la superposant au parc Belmont, qui donc représente là la fête constante, permanente.
La joie totale.
Exactement. Alors, c'était un endroit que l'autrice n'a pas connu, puisque le parc Belmont a fermé ses portes autour de 1984, si je me souviens bien.
Dans ces eaux-là,
oui. Mais c'est un parc qui a vraiment fait le bonheur de plusieurs générations. On venait de très loin pour y aller, et c'était, en fait, on allait à la campagne à cette époque-là, à Quartierville. mais c'est ça. Et donc, c'était une journée où on divertissait aussi les enfants avec tous les attraits d'un parc d'amusement. Donc, les manèges, les femmes à barbe, les kiosques de toutes sortes,
la barbe
etc.
à papa, les pommes de tir.
Aussi, c'est ça. Donc, récit très intéressant. Je vous invite à le lire et à écouter notre épisode, évidemment.
Ah oui. Et quel est le deuxième quartier que vous avez exploré cette saison, Sarah?
On est allé à La Salle. Alors, à La Salle, on a un peu tordu le concept du balado, je dois avouer. L'œuvre dont on parlait ne traitait pas du quartier, mais l'autrice, elle, a habité à La Salle en arrivant à Montréal et je pensais que c'était une perspective intéressante à explorer aussi. Donc, on a rencontré à la bibliothèque L'Octogone, donc la bibliothèque de La Salle, Lula Carballo, autrice montréalaise d'origine chilienne. Et son premier roman s'appelle « Créature du hasard ». Ça a été publié aux éditions Le Cheval d'Août. Et elle, dès le début de notre conversation, elle rend un vibrant hommage à la bibliothèque municipale qui l'a accueillie dès son arrivée à Montréal. Je vous laisse l'écouter.
Je suis arrivée au Québec en 2002 avec ma famille. Puis les premiers quartiers dans lesquels on a habité, c'est Ville-la-Salle. J'avais 14 ans à l'époque, puis bien sûr, je parlais pas la langue parce que ma langue maternelle est l'espagnol. Mm-hmm. Puis les seuls endroits accessibles qu'on avait, c'était la bibliothèque. J'ai côtoyé cette bibliothèque pendant très longtemps, à tous les jours, sur 3 années. Là, je pense que je venais ici à tous les soirs, me réfugier dans les livres, mais aussi dans la salle d'informatique, parce qu'à l'époque, on n'avait pas d'ordinateur à la maison, donc ça me permettait de garder contact avec ma famille en Uruguay, puis d'avoir accès aux livres aussi, parce qu'il y avait une collection hispanophone très intéressante, avec des versions bilingues français-espagnoles, et c'est comme ça que je suis entrée dans la littérature.
Wow.
Ouais, j'ai été vraiment marquée par cette réflexion-là de Lula Carballo quand elle dit que le fait que son entrée dans la littérature s'est fait à la bibliothèque. Alors, bon, évidemment, je raccourcis un petit peu. Là, il y a un long parcours entre la première fois où elle est allée à la bibliothèque et l'édition de son premier livre, Créature du hasard. Mais quand même, ça nous montre comment la bibliothèque permet d'ouvrir des horizons et lui permet à elle de débuter ce parcours-là.
Ça me rappelle un peu Caroline Dawson qui parle de son rapport précieux et fort avec la bibliothèque de
son quartier. Exactement, Caroline Dawson, que vous pouvez écouter dans la saison 3 du balado.
C'est noté.
Vous pouvez donc écouter Lula Carballo en parler plus en détail de ce lien-là et de ce rapport-là si vous écoutez son épisode. Je vous rappelle aussi que dans chaque épisode du balado, on demande à l'auteur ou à l'autrice rencontrée de suggérer des lectures qui les ont marquées. Et à chaque fois, cet exercice-là est extrêmement révélateur. Alors, révélateur des intérêts des auteurs-autrices, révélateur de leur personnalité aussi, révélateur aussi de ce long parcours qu'ils ont pu faire pendant une certaine période de leur vie. Et dans le cas de Lula Carballo, ça l'est absolument parce que elle passe de suggestions d'œuvres d'auteurs latino-américains, à des auteurs québécois qui l'ont un peu plus façonnée comme l'écrivaine qu'elle est aujourd'hui. Donc, elle va citer Régent Ducharme, par exemple, qui fait partie de ses favoris, ou celle qu'elle a eue comme professeure et qui est une grande écrivaine, Élise Turcotte, par exemple.
Deux grandes plumes, quoi. Et puis là, Sarah, on passe d'ouest en est sur l'île de Montréal.
Oui, effectivement, Hélène. Alors, de La Salle, donc dans l'ouest de l'île où on était, on passe à Pointe-aux-Trembles, complètement dans la pointe est du territoire. Et évidemment, le point commun de ces deux quartiers qui se trouvent au sud de l'île, c'est évidemment le fleuve Saint-Laurent. On ne peut pas passer à côté. Alors, ils contournent La Salle et à Pointe-aux-Trembles, à la bibliothèque Serge Bouchard. Je ne sais pas si vous y êtes déjà allé. Moi, c'était la première fois que j'arrivais là. La bibliothèque Serge Bouchard est littéralement en face du fleuve. C'est magnifique comme endroit.
Un lieu superbe pour lire.
Vraiment. Et c'est là, donc, qu'on a rencontré Jean-Christophe Riel, auteur de La Blague du siècle.
Chanceuse.
Étant donné l'environnement où on se retrouvait, j'ai pas pu m'empêcher de lui demander ce que représentait la présence du fleuve dans son roman, parce qu'il est très, très présent. Je vous laisse écouter ce qu'il en dit.
Le fleuve, moi, je suis amoureux à la base de l'eau, du fleuve, des rivières. Ça m'apaise. Mes deux romans, j'ai écrit sur l'hiver. J'aime l'ambiance hivernale. J'aime cette espèce de... Bon, quand il fait froid dehors, t'es comme, tu peux pas te reposer vraiment, à moins que tu sois bien habillé. Il y a quelque chose d'urgent. Tu souhaites ardemment, quelques minutes ou quelques heures plus tard, retourner à l'intérieur pour te réchauffer. Puis il y avait de quoi de... je trouvais de poétique dans le fait que dans le roman, quand que Sylvain meurt, il se transforme en urne de glace et que momentanément, évidemment, quand que les journées chaudes de l'hiver arrivent, il puisse comme fondre. Donc il y a une espèce d'urgence de faire cette cérémonie-là dans l'eau du fleuve avant que Sylvain ne fonde. Puis je trouvais ça poétique et beau, là, dans la mesure où il y avait cette espèce d'urgence où les deux frères mettent leur père dans le coffre du char et espèrent se rendre en Gaspésie pour déposer les cendres de leur père avant qu'ils ne fondent complètement.
Jean-Christophe Réel.
Oui, alors étrangement, en fait, quand je lui ai posé cette question-là, donc à propos du fleuve, Jean-Christophe Réel associe automatiquement le fleuve avec l'hiver, avec le froid, surtout dans ce nouveau roman-là,
L'eau
La
figée.
Blague du siècle. Oui, exactement. Et ça accompagne bien l'histoire de La Blague du siècle parce que la rigueur des éléments, de la nature, ça souligne bien tout ce qu'il évoque comme dureté dans le destin de ses personnages. Donc Louis, le grand frère de Guillaume, qui est un jeune homme schizophrène, et Louis, donc, qui est le fils de Sylvain aussi, ce père atteint d'un cancer du cerveau et dont on connaît la fin dans l'extrait que vous venez d'écouter. Cela dit, Jean-Christophe Réel est poète, hein? Donc dans tout ce qu'il raconte, dans la dureté de tous ces éléments-là, de toute cette histoire-là, il insuffle beaucoup, beaucoup de beauté dans cette histoire qui est somme toute assez triste.
Et je dirais d'humour aussi.
Oui, oui, effectivement. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, le quartier de Pointe-aux-Trembles fête ses 350 ans d'existence cette année et le quartier ainsi que tout l'arrondissement, en fait, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles seront à l'honneur cette année lors du Salon du livre de Montréal qui aura lieu au Palais des congrès du 27 novembre au 1er décembre prochain. Alors, dans cette saison donc du balado Histoire de quartier, on a sillonné l'île de Montréal d'ouest en est, mais pour le dernier épisode, on revient dans un des quartiers centraux les plus connus et fréquentés, on revient dans Rosemont, avec l'auteur Maxime Raymond Bock et son recueil de nouvelles « Les noyades secondaires ». Alors, dans ce recueil, l'auteur, il explore à travers les différentes histoires de ce recueil-là, plusieurs de ses passions et de ses préoccupations. Il y parle beaucoup, entre autres, de l'histoire de certains quartiers centraux de Montréal, dont il juge en fait important de connaître les détails pour être au-delà de la gentrification qu'il y a aujourd'hui et tout ça. Il trouve important de connaître tout l'historique de ces quartiers-là.
Les origines.
Exactement. Mais donc, quand il aborde dans ce recueil l'histoire de Rosemont, il s'agit plus seulement de l'histoire avec un grand H, l'histoire collective, mais aussi d'une histoire beaucoup plus personnelle et familiale qui s'y mêle. Je vous laisse écouter ce qu'il en dit.
Pour moi, Rosemont, c'est pas qu'une histoire collective, c'est aussi une histoire familiale et personnelle. Donc, ça permet, quand on a un lien aussi intime avec un lieu, d'en parler avec, en toute connaissance de cause, donc peut-être avec une sensibilité plus accrue aux détails qui font le sel de la vie. Les relations interpersonnelles sont imbriquées avec les lieux, là où on rencontre les gens avec qui on va partager nos vies, les relations familiales, interfamiliales, la fréquentation des institutions, des lieux. On n'en parle pas avec une distance objective de chercheur ou avec un désir de représentation qui serait médiatisé par une recherche. J'ai pas besoin de faire de recherche pour écrire ces textes-là. Ils sont sortis de moi, ils sont sortis de ma mémoire, de l'expérience de ma famille.
Maxime Raymond Bock donc s'inspire pas mal de son histoire familiale pour écrire plusieurs des nouvelles de ce recueil « Les noyades secondaires ». On y retrouve beaucoup la piscine de Rosemont, qui est quand même un lieu central qui est juste à côté de la bibliothèque de Rosemont. On la retrouve à plusieurs reprises parce que c'est un lieu que Maxime Raymond Bock a régulièrement fréquenté dans sa jeunesse. On retrouve aussi les rues du quartier Holt, d'Endurant. C'est des rues où a habité l'auteur dans sa jeunesse aussi, en particulier d'Endurant. Et il va évoquer dans son recueil de nouvelles l'histoire de ces... l'origine des noms de ces histoires-là. Donc, d'où ça vient, pourquoi on leur a donné ce nom-là et qui étaient ces hommes derrière ces noms-là.
Est-ce que c'est dans une des histoires où il raconte aussi le fait que son père est dentiste?
Oui, dans la première.
Dans la maison?
Oui, tout à fait. Maison qui était située sur Dendurand, d'ailleurs. Il y a aussi certaines histoires qui sont très drôles, qui viennent s'insérer dans cette grande leçon d'histoire-là. Et dans ces histoires-là, on y retrouve les préoccupations de l'écrivain d'aujourd'hui qui se moque allègrement du milieu littéraire. Et ça, c'est des histoires qui sont vraiment très, très drôles, à mon avis.
Est-ce que le milieu va le trouver drôle?
Je ne sais pas. Je suis pas certaine. Donc, quatre œuvres qui nous auront permis encore une fois d'explorer des quartiers variés de Montréal, des quartiers très différents les uns des autres. Et à chaque fois, en fait, que j'ai été dans des bibliothèques, dans ces bibliothèques-là, de ces quartiers-là, j'ai été très étonnée de la variété des environnements et des ambiances différentes. Donc, je suis vraiment heureuse d'avoir pu aller comme ça d'une bibliothèque à l'autre dans le cadre de ce projet, avec évidemment toujours un accueil exemplaire, que ce soit de la part des équipes des bibliothèques qui ont grandement participé à ces épisodes-là, ou des personnes de la communauté aussi de ces bibliothèques-là qu'on a pu rencontrer et qui n'ont exprimé que des bonnes choses vis-à-vis cette institution-là. C'est la dernière saison d'Histoire de quartier, donc ce sont 18 épisodes qui nous auront permis de presque faire le tour de l'île. Je vous invite à les écouter, vraiment. Comme je vous le disais, ils sont disponibles sur YouTube, sur toutes les plateformes d'écoute de balado aussi. Donc je vous invite à les écouter et n'oubliez pas que dans chaque épisode, vous avez une mine de suggestions de lecture proposées par chaque auteur ou autrice racontée. Donc ça, en soi, c'est une mine d'or.
C'est du bonbon.
Oui, exactement.
Sarah Osama, un grand merci d'être venue ce matin parler de ce super projet. Bravo pour votre merveilleux travail. Je rappelle que vous êtes bibliothécaire à la direction des Bibliothèques de Montréal. À la prochaine, Sarah.
Merci, Hélène.